Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Romain Ozoui.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une ce soir, au moins 62 morts, le dernier bilan des violences entre Israéliens et Palestiniens. Le Hamas et les forces israéliennes ont poursuivi aujourd'hui leurs échanges de tirs. Les États-Unis annoncent l'envoi d'un émissaire en Israël et dans les territoires occupés.
Liz Cheney n'est plus numéro 3 du Parti républicain à la Chambre des représentants. C'est ce qui ressort d'un vote. Liz Cheney paye ses critiques à l'égard de l'ancien président Donald Trump, des critiques qu'elle a renouvelées. Vous l'entendrez.
Et puis un plan climat pour l'Allemagne. Le gouvernement n'a pas traîné pour adopter une série de mesures destinées à lutter contre le réchauffement climatique. Objectif zéro carbone d'ici 2045. Une manière de répondre à la montée des écologistes dans les sondages en Allemagne.
Les journaux
en français facile.
En français facile.
Aucun signe d'apaisement ce soir entre Israël et le Hamas.
Oui, le Hamas, le mouvement islamiste qui est au pouvoir à Gaza, et les forces israéliennes. Les échanges de tirs entre ces deux parties se sont poursuivis ce mercredi, portant le bilan total des violences depuis le début de la semaine à au moins 62 morts, dont 59 Palestiniens. Et on ne semble pas aller vers un apaisement. Effectivement, à la mi-journée, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a affirmé qu'une trêve ne serait possible qu'en cas de calme durable. Et les violences commencent à gagner des villes israéliennes, comme à Lod. Lod, c'est une ville où juifs et arabes habituellement vivent en paix. Mais l'état d'urgence à Lod a été décrété et un couvre-feu imposé après que la police a fait état d'émeutes. Correspondance de notre envoyé spécial à Lod, Sami Bourlifa.
Vitrines brisées, carcasses de voitures calcinées, rues tapissées de pierres, certains quartiers de la ville de Lod ont été saccagés durant les affrontements de la nuit. Tout débute par une simple manifestation de la communauté arabe israélienne qui souhaite apporter son soutien aux Palestiniens sous occupation et aux Gazaouis qui subissent les bombardements israéliens. Comme souvent dans ce genre de situation, deux versions s'opposent. Il y a celle des officiels israéliens. Le président Reuven Rivlin va même jusqu'à parler de pogrom, de foule arabe assoiffée de sang et s'attaquant à la communauté juive. Et puis, il y a l'autre version, celle de la minorité arabe de Lod. Selon des témoignages recueillis aujourd'hui, des colons israéliens protégés par la police sont venus exprès de Cisjordanie occupée pour empêcher la manifestation arabe. Des affrontements ont alors opposé les uns et les autres et la situation a dégénéré. Lundi, un colon avait déjà abattu un arabe israélien à Lod. Les arabes israéliens, pourtant citoyens de l'État hébreu, dénoncent l'injustice qu'ils subissent au quotidien. Selon eux, Israël est une démocratie à deux vitesses. Sami Bourlifa de retour de Lod, Jérusalem, RFI.
Et face à cette situation, la communauté internationale s'organise pour tenter d'apporter une réponse, Romain.
Oui, les initiatives se multiplient. Ce mercredi, nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, mais elle n'a pas abouti sur une déclaration, comme lundi d'ailleurs, en raison à chaque fois de l'opposition des États-Unis. Washington, allié d'Israël, on le rappelle, qui annonce l'envoi d'un émissaire sur place pour appeler à la désescalade. Et puis la Russie, enfin, qui demande une réunion urgente du quartet pour le Proche-Orient, le quartet qui réunit, outre la Russie, les États-Unis, l'ONU et l'Union européenne.
Et on évoquait les États-Unis, la politique intérieure à présent, et Donald Trump qui continue de peser sur les républicains.
Oui, la preuve avec l'éviction aujourd'hui de Liz Cheney, évincée de son poste de numéro 3 du groupe parlementaire. Ainsi en ont décidé les 212 républicains de la Chambre des représentants lors d'un vote oral qui n'a duré que quelques minutes. Liz Cheney n'a aucune personnalité et n'a rien à apporter de bon à notre vie politique ou à notre pays. Voilà comment Donald Trump a réagi, car Liz Cheney était une voix critique de l'ancien président américain. Elle n'a eu de cesse de dénoncer les mensonges de Donald Trump et malgré son éviction, elle a renouvelé sa détermination. Je vous propose de l'écouter.
Comme je l'ai dit hier soir et répété à l'instant devant mes collègues, je suis absolument convaincue que nous devons aller de l'avant en nous appuyant sur la vérité. Nous ne pouvons à la fois concilier le mensonge et la Constitution. La nation a besoin d'un parti républicain fort. La nation a besoin d'un parti fondé sur les principes fondamentaux du conservatisme. Je m'engage à m'assurer que le parti avancera de cette manière et je prévois de mener le combat pour cela. Je ferai tout ce que je peux pour que l'ancien président ne s'approche plus jamais du bureau ovale. Nous avons vu les dangers que ses discours continuent de susciter. Nous avons vu son manque de respect et de dévouement pour la Constitution. Et je pense qu'il est très important que, quelle que soit la personne que nous élisions, ce soit quelqu'un de fidèle à la Constitution.
Voilà, Liz Cheney, désormais donc ancienne numéro 3 du Parti républicain à la Chambre des représentants, et illustration du tournant marqué par l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. L'actuel président a, pour la première fois, reçu aujourd'hui les quatre chefs du Congrès, deux démocrates, deux républicains, et dès l'ouverture de cette réunion, il a affirmé vouloir travailler aussi avec ses opposants.
La Chine, elle, continue de renforcer son emprise sur Hong Kong.
Oui, le Parlement pro-Pékin a voté aujourd'hui une nouvelle loi. Désormais, le gouvernement pourra limoger tout titulaire de charge publique jugé déloyal ou interdire que des candidats jugés déloyaux à l'égard des autorités locales, à l'égard de la Chine, puissent se présenter à des élections. Cette loi est passée sans aucun obstacle puisque, depuis l'an dernier, à Hong Kong, il n'y a plus d'opposition au Parlement. Détail Christophe Paget.
Dorénavant, à Hong Kong, devront prêter serment, un serment de loyauté, certains responsables du gouvernement, les membres du cabinet, les députés, sachant que tous les pro-démocraties ont déjà démissionné l'an dernier, les juges, et puis surtout les 470 membres des conseils de district. Ce sont les seuls élus au suffrage universel direct du territoire. Et fin 2019, la victoire écrasante des candidats pro-démocratie à ces postes avait été vue comme un clair rejet des velléités de contrôle total de Pékin sur Hong Kong. Avec la nouvelle loi, cela ne risque pas de se reproduire. D'ailleurs, 26 conseillers de district au moins ont démissionné ces dernières semaines avant le vote. Car si les élus vont devoir prêter serment, leur loyauté sera aussi jugée pendant toute leur carrière. En cas de doute, suspension immédiate et interdiction de se présenter pendant 5 ans. La loi sur la sécurité mise en place l'an dernier par Pékin pour contrer les gigantesques manifestations pour la démocratie de 2019 avait déjà complètement changé le fonctionnement du territoire autonome, enfermant ou forçant à l'exil de nombreux opposants. Pékin achève de verrouiller le système et prépare encore des lois, cette fois pour évaluer le risque pour la sécurité nationale que pourrait faire courir un candidat et ainsi l'autoriser ou pas à se présenter.
Christophe Paget, et puis en Allemagne, l'adoption d'un plan en faveur du climat.
Oui, cela intervient alors que le gouvernement observe d'un œil inquiet la montée des écologistes dans les sondages à un peu plus de 4 mois des élections en Allemagne. De quoi pousser Berlin à accélérer dans ce domaine, et d'ailleurs ce plan a été décidé en moins de 15 jours. Alors ce qu'il faut en retenir, eh bien l'objectif d'une neutralité carbone d'ici 2045, donc pas de carbone d'ici 2045 à Berlin pour RFI. Pascal Thibault.
La chancellerie était en flammes la nuit dernière à Berlin. C'est en tout cas ce que pouvait laisser penser la projection de l'organisation pro-environnement Greenpeace sur la façade du bâtiment. On pouvait aussi lire « Droit à l'avenir, protection du climat maintenant ». L'action de l'ONG intervenait quelques heures avant l'adoption d'un projet de loi en Conseil des ministres pour renforcer les mesures à moyen terme de l'Allemagne contre le réchauffement climatique. Un précédent texte en 2019, allant jusqu'en 2030, avait nécessité des mois de laborieuses discussions entre chrétiens et sociaux-démocrates. Cette fois, il aura fallu 2 semaines après une décision de la Cour constitutionnelle qui exigeait des engagements concrets au-delà de 2030. Les émissions de gaz à effet de serre devront baisser de 65% d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 1990. Au lieu de 55%, la neutralité climatique doit être atteinte d'ici 2045, soit 5 ans plus tôt. Les mesures concrètes restent à préciser, mais les conséquences seront sensibles pour l'industrie lourde, le secteur automobile, les transports ou le logement. Les énergies renouvelables doivent se développer encore plus à l'avenir. L'abandon du charbon pourrait être avancé. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Enfin en football, le Paris Saint-Germain tente de se qualifier pour la finale de la Coupe de France.
Oui, les Parisiens se déplacent actuellement sur la pelouse de Montpellier. C'est la seconde période, le début de la seconde période, 53e minute. Et le PSG mène 2-1, 2 buts signés Kylian Mbappé. Demain, la seconde demi-finale, elle opposera Monaco à Rumi Vallière, club amateur de Haute-Savoie. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci Zéphirin.
Merci à vous.
Il est 22h10, ici à Paris, 2h de moins, en temps universel.